Radio Kapi.
La RDC, par la bouche de son président, vante ses potentialités écologiques à la COP26 à Glasgow, principalement ses forêts, son bassin. Toutes ces potentialités méritent maintien et protection, insiste Félix-Antoine Tshisekedi auprès de la communauté internationale. Voilà qui ouvre cette édition vespérale. La vie au quotidien de plus en plus vulnérable des familles dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, présentée au coordonnateur des Nations Unies en charge des questions humanitaires en RDC, le Forum des femmes leaders lit l'accroissement de cette vulnérabilité aux conditions de l'état de siège. Professeur Chims Mulungulungu, expert en droit minier et auteur de l'ouvrage intitulé « Code minier, commenté et annoté » est notre invité ce soir. En fin de cette édition, il nous parle du code minier révisé de mars 2018. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Kapi pour vous informer. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. La République démocratique du Congo, mon pays, avec ses massifs forestiers, ses tourbières et ses ressources en eau et en minerais stratégiques, se présente comme un pays solution à la crise climatique. La déclaration est de Félix Tshisekedi. Le chef de l'État s'est ainsi exprimé ce mardi devant des dirigeants du monde réunis à la 26e conférence des Nations Unies pour le climat à Glasgow, en Écosse. Le président de la RDC invite par conséquent les leaders et décideurs du monde entier à agir ensemble, main dans la main, afin de protéger ce patrimoine naturel essentiel à la survie de l'humanité. Par ailleurs, les dirigeants mondiaux ont pris l'engagement ce même mardi à enrayer la déforestation d'ici 2030. D'après le gouvernement britannique, hôte de la conférence sur le climat, cette déclaration commune sera adoptée par plus de 100 pays abritant 85% des forêts mondiales, dont la forêt boréale du Canada, la forêt amazonienne au Brésil ou encore la forêt tropicale du bassin du Congo. C'est une décision salutaire pour l'écologie, souligne le professeur Amunda Ladrazo, expert en flore et faune. On l'écoute au micro de Tati Mapuku.
C'est une très très bonne initiative, mais cette initiative doit être accompagnée par un certain nombre de mesures, notamment la réduction de la pauvreté des populations qui vivent autour de ces forêts, en créant les activités génératrices des revenus. Parce qu'aussi longtemps que les populations qui vivent autour de ces forêts seront pauvres, ils seront toujours dépendants de cette forêt et ce sera difficile de pouvoir réduire, sinon endiguer complètement la déforestation. Il faut également l'adoption des bonnes pratiques agricoles par les communautés qui vivent autour de forêts. Les bonnes pratiques agricoles prennent en compte notamment l'agroforesterie. Il faut également électrifier les zones rurales parce que aussi longtemps qu'on n'aura pas électrifié les zones rurales, les populations qui vivent autour des forêts seront tentées toujours à aller chercher les bois de chauffe, à aller chercher la baise, etc. Et ça favorise la déforestation.
Autre nouvelle liée au climat, plus de 500 hectares de champs sont perdus à cause des inondations qui perdurent dans le territoire d'Isangi dans la province de la Tshopo. Selon André Kangaela Kutwaiti, propriétaire d'une plantation de cacaoyers qui livre cette information à Radio Kapi, cette situation va provoquer une famine puisque toutes les cultures sont détruites par les eaux. On écoute André Kangaela Kikutwaiti, joint par Alain Hong.
Nous avons perdu plus de 500 hectares de champs avec de manioc, de cultures de maïs, de niébé, ouvigna, des arachides qui sont sous eau suite aux pluies diluviennes et aux inondations qui perdurent. Vous prenez à partir de Yelenge, vous traversez la rivière Lindi à partir de Yelenge, en partant vers Isangi, au centre du territoire. Nous sommes le groupement Yawenda et le groupement Yelongo, et nous subissons déjà ces problèmes, sans compter ce qui s'est fait à Okadie et à Likandianongi. Vraiment, il y a des champs qui sont sous inondation, sous eau, et nous sommes certains que les jours qui suivent, donc le mois suivant, nous aurons des sérieux problèmes de produits alimentaires parce que nous serons en crise, d'autant plus que les productions sont en train de se détruire sous les eaux.
Deuxième titre de cette édition. Le contexte de l'état de siège a augmenté la vulnérabilité des femmes et des enfants en Ituri et au Nord Kivu. Cette déclaration a été faite ce mardi à Kinshasa par le Forum des femmes leaders du Nord Kivu et de l'Ituri à l'issue de leur rencontre à Kinshasa avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire en RDC, David Maglakankar. Ces délégations affirment aussi avoir fait mention de la malnutrition qui frappe plusieurs enfants et de la situation préoccupante des déplacés dans ces deux provinces. On écoute Madame Patience Sinamouli, point focal de l'Organisation collective des associations féminines pour le développement, CAFE, dans Ville de Béni, au micro de Alain Hong.
Si nous sommes là, c'est parce que nous avons vu les taux de vulnérabilité en fait qui est accru ces derniers temps, surtout par rapport aux vies des femmes, des enfants. La situation est devenue compliquée, plus les atrocités continuent et la vie devient tellement compliquée. Raison pour laquelle nous sommes venus voir les coordonnateurs humanitaires pour qu'ils voient dans quelle mesure il peut encore renforcer les actions sur terrain pour lutter aux différents défis en fait. Parce que ces derniers temps, nous avons constaté un taux de malnutrition accru, principalement en ville de Béni, Béniville et territoire. À Béniville, il y a déjà 3 zones de santé qui sont affectées, notamment zones de santé de Béni, de Mutuanga et de Ouicha, déjà affectées par la malnutrition. En province orientale, nous voyons le territoire de Mambasa, aussi affecté par la malnutrition. Et nous sommes dit, si rien n'est fait en temps, nous risquerons d'assister au pire. Tout ce qui se passe, c'est lié à la sécurité. Si les autorités de la MONUSCO peuvent appuyer le programme DDRRCS pour qu'une fois les démobilisés sortent des différents camps militaires, qu'ils soient encadrés.
À Béni, certains responsables des structures sanitaires privées craignent les conséquences de grève des infirmiers sur la protection sanitaire des enfants. Le cas avec les enfants qui sont nés pendant cette période des grèves est aussi sonné depuis le début de cette année. Plusieurs d'entre eux risqueraient de manquer des premiers vaccins au risque de les exposer aux maladies respiratoires et autres. C'est la crainte du docteur Gisèle Kilomba de la clinique Ma Famille de Béni. Elle s'exprime ici au micro de Marc Marofimbo.
C'est malheureux, hein? Il y a des enfants qui sont venus avec des maladies bronchiques là. Quand nous avons fait des clichés radio, nous avons découvert que ces enfants ont commencé à développer la TBC et on a soumis. Curieusement, quand on a donné les antituberculés, les enfants évoluent bien. Vous voyez la conséquence de ne pas vacciner les enfants à temps. Malheureusement, notre contrée, nous avons souffert. On a fait presque 10 mois sans vaccin. Je déplore déjà cette situation pour les enfants qui sont nés depuis le mois de janvier 2021 jusqu'au mois de septembre, je peux dire. Bon nombre de ces enfants n'ont pas été vaccinés à la première période de leur vie. Et ça les expose déjà à attraper certaines maladies respiratoires. Le calendrier vaccinal est de rigueur. Là, vraiment, j'appelle aux parents qui ont des bébés et même nos centres de santé, comme ils ont commencé à distribuer encore les vaccins, de circuler dans tous les hôpitaux pour disponibiliser les vaccins là pour les enfants.
Parlons de cette autre actualité à Ituri. L'ONG Médecins Sans Frontières, MSF, suspend ses activités en faveur des milliers de personnes composées essentiellement des déplacés de guerre dans la zone de santé de Bambou en territoire des Djougou. Ces décisions sont consécutives à l'attaque jeudi dernier d'une équipe de cette organisation humanitaire par des hommes armés qui ont blessé 2 de ses agents. L'association culturelle Lori, qui regroupe les communautés locales, s'inquiète de cette mesure qui, selon elle, aura des graves conséquences sur la population victime des atrocités des groupes armés. Isaac Remoyope.
Selon les communiqués de MSF, l'ONG appuie 3 hôpitaux généraux, 12 centres de santé, 4 postes de santé et 32 sites de soins communautaires dans les zones de santé de Drodro, Nizi et Ngoumou dans les territoires de Djougou. Cette intervention consiste à la prise en charge des maladies pédiatriques, de la malnutrition, du paludisme, des violences sexuelles et de la santé mentale. Des milliers d'habitants de ces entités bénéficient des services de cette organisation dans cette zone où tous les humanitaires se sont presque retirés à cause de l'insécurité. L'association culturelle Lori, qui regroupe les membres des communautés locales, redoute déjà les conséquences de cette mesure sur la population, dont de nombreux habitants manifestent des symptômes de certaines maladies et de malnutrition. Cette structure condamne fermement l'attaque contre les véhicules de l'ONG MSF. Jean-Marie Ndjaza, vice-président de Lori.
On est en train de projeter les conséquences. Déjà, la population avait déjà des difficultés pour accéder aux soins. Les gens sont confinés à la procure de bambou, dans la brousse, les gens ne sortent pas. Si MSF pense c'est plus d'un mois sans assister la population, là, ça va être dangereux pour la population. C'est nous recommandons d'avoir pitié de la population.
Signalons qu'en juin dernier, MSF avait déjà exprimé son indignation face à la destruction et au pillage de l'hôpital général de Boga, construit et équipé par cette organisation. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, les présidents des coopératives minières de Balila et des Ikinga situés au village Katambou à 72 km route Kasongo dans le secteur de Wakabango 2 en territoire de Pangui dénoncent la présence d'épuisière des militaires FARDC dans ces sites miniers. Ces hommes en uniforme exploitent de l'or dans des sites privés des deux coopératives qui déclarent être en ordre avec l'État congolais. La question qu'ils se posaient est de savoir à qui profitera cette exploitation illégale. François Mungungu Mangungu, président de la coopérative minière de Balila, Comibal, explique au micro de Florence Kizalunga.
Je viens vraiment avec une forte colère auprès de votre radio dénoncer la présence des militaires FARDC dans notre carré minier. J'étais surpris hier, vers 10h, on m'appelle comme quoi, une jeep pleine de militaires venait de débarquer à Katambwe, 70 km, avec un cortège de militaires, à la tête un colonel, semble-t-il porteur d'un ordre de mission signé par une autorité de la province. À peine arrivé dans le village, il ne s'était pas intéressé au service des mines qui est sur place, et même au service des CMAP, ni même pas aux représentants de la coopérative. Ils se sont adressés à la jeunesse de l'IDPS locale et à partir de cette jeunesse, ils se sont dit de chercher des jeunes garçons afin qu'ils les amènent dans les sites. Et depuis 11h hier, ils sont en train d'exploiter l'or dans les sites miniers. Au moment où je vous parle, ils ont passé la nuit et jusqu'à présent, ils sont là, ils continuent à exploiter et ils ont promis, semble-t-il, ils vont passer 5 jours. Je vais apprendre qu'ils ont déjà prélevé une quantité au-delà de 2 kilos d'or et cette production va servir à qui sera canalisé dans quelle caisse, on ne sait pas, c'est un pillage, c'est un banditisme. Les militaires ne sont pas appelés à aller dans les sites miniers.
Joint à ce sujet, l'auditeur supérieur des FARDC dit être informé comme toute autre personne. Colonel Saïdi promet tout de même d'en faire le suivi. Célébration ce mardi 2 novembre de la Journée internationale des luttes contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Dans son rapport intitulé « Mauvais temps pour la presse en RDC » publié en marge de cette journée, l'ONG Journalistes en danger parle d'au moins 110 cas divers contre les journalistes et les médias enregistrés cette année. 3 ans après son accession au pouvoir et en dépit de ses nombreuses promesses faites à la presse, le nouveau pouvoir n'a toujours pas su lancer des signaux forts en faveur de la liberté de la presse. À ce jour, aucune action de grande envergure n'a été prise ni sur le plan politique, ni sur le plan judiciaire, encore moins sur le plan sécuritaire en faveur de l'exercice du métier des journalistes, écrit JED dans un communiqué de presse. D'autres détails de ce communiqué avec vous, Michel Kifindangoy.
D'après Journalistes en danger, je le cite, plus de la moitié des cas d'atteinte à la liberté de la presse, soit 51%, touchent à la sécurité physique des journalistes. Ils sont constitués des menaces qui précèdent parfois les assassinats, des agressions physiques et des journalistes contraints à vivre dans la clandestinité pour échapper à la mort suite à des menaces des milices ou des militants politiques. Fin de citation. À l'analyse de cette situation actuelle de la liberté de la presse en RDC, JED demande au gouvernement la réforme sans délai du cadre légal répressif actuel, à savoir la loi de 1996 portant modalités de l'exercice de la liberté de la presse en consacrant la dépénalisation des délits de presse. JED plaide aussi pour l'adoption de la loi d'accès à l'information qui fera obligation à tous les mandataires publics de publier toutes les informations d'intérêt général. Pour JED, le gouvernement devrait mettre fin aux arrestations des journalistes et aux suspensions arbitraires de médias et mettre en place un mécanisme national de protection des journalistes sans oublier de mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes.
Notez que cette journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes a été instaurée en mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes des RFI, assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, au Mali. Avant de passer à la page internationale, des longues files d'attente sont observées depuis ce lundi dans les différentes stations-service de Lubumbashi. Ceci est la conséquence de la pénurie de carburant chez plusieurs importateurs. Du coup, les prix des courses sont revus à la hausse par certains chauffeurs aux grandes dames de la population. Jean Gandou.
Plusieurs stations-service ne vendent pas de carburant depuis ce lundi. Nombreuses d'entre elles sont parmi les 19 entreprises pétrolières frappées par les mesures administratives prises par la DGDA à la demande de l'Inspection générale de finances. D'après les sociétés pétrolières, la DGDA CEDEA a verrouillé leurs numéros d'identifiants fiscaux, ce qui fait que les camions transportant les carburants n'ont pas franchi la frontière depuis une dizaine de jours. Et c'est le samedi dernier qu'une solution a été trouvée, après l'octroi par le ministre des Finances d'un moratoire de 3 mois aux pétroliers sur les 12 qu'ils ont sollicités, en vue de leur permettre d'éponger les contentieux qu'ils ont avec la douane à la suite du rapport fait par l'IGF et dont les entreprises pétrolières n'ont toujours pas accepté les conclusions faisant état de la fraude et de la contrebande dans l'importation des produits pétroliers. Conséquence, ce sont des longues files d'attente qui s'observent devant les stations-service qui sont encore opérationnelles. D'autres pétroliers, bien que disposant de carburant, ne veulent pas vendre, estimant qu'ils travaillent à perte parce que d'après eux, à ce jour, sur le marché international, le prix du baril est en hausse pendant que sur place, c'est l'ancienne structure des prix qui est en application. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
COP26 à Nairobi, les réactions sont mitigées, des voix militent pour une approche typiquement africaine. À la tribune de la COP26, des dirigeants africains ont appelé les principaux pollueurs au respect de leurs paroles, alors que des Kenyans optent pour le fatalisme, appelant simplement le continent à s'adapter au changement climatique qui n'épargne pas leur pays. Le phénomène a notamment un impact considérable sur la production du thé, dont le Kenya est le troisième producteur mondial. Autre nouvelle liée à la COP26, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a fait un état des lieux alarmant sur les conséquences du dérèglement climatique pour son pays. Face à cette situation, elle appelle à un sursaut collectif. Nous savons que si le monde n'agit pas en conséquence, les pays comme le nôtre, avec une capacité d'adaptation plus faible, n'ont d'autre choix que de se préparer à des impacts plus dévastateurs. Notre fierté, le mont Kilimandjaro, est en train de devenir chauve à cause de la fonte des glaciers.
L'invité.
Notre invité est le professeur Chims Mulungulungu, expert en droit minier et auteur de l'ouvrage intitulé « Code minier commenté et annoté ». Il s'exprime sur les innovations positives et négatives du code minier révisé de mars 2018. Le professeur Chims Mulungulungu s'entretient avec Jody Daniel Kachama.
Monsieur Chims, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a motivé d'abord la révision du code minier, la révision qui a eu lieu en 2018?
Il faut dire que les impératifs de l'économie nationale avaient conduit le gouvernement de la République démocratique du Congo a initié la loi pour modifier le code minier de 2002.
Quel changement contient ce nouveau code minier?
La loi du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi du 11 juillet 2002, contient beaucoup d'innovations, dont certaines constituent des avancées et d'autres de reculs d'après mes analyses. S'il faut prendre les points positifs ou les avancées, ce que moi j'appelle les avancées, on peut prendre le cas de la hausse du taux de la redevance minière. Parce que avant la modification du code minier, les métaux non ferreux, par exemple, étaient taxés à 2%. Aujourd'hui, le taux est fixé à 3,5. Si vous prenez les métaux précieux, dont le taux était à 2,5, aujourd'hui, il est fixé à 3,5. Les pierres précieuses, dont le taux était à 4, aujourd'hui, le taux est fixé à 6. Il y a une autre catégorie des substances minérales dites stratégiques qui comprend le cobalt, le germanium et la colombo-tantalite, communément appelée le coltan, dont le taux aujourd'hui est fixé à 10%. Dans le cadre des avancées, on peut parler aussi de l'élargissement des acteurs assujettis à la redevance minière. Avant la modification du code minier, seul le titulaire du permis d'exploitation était assujetti à la redevance minière. Avec la modification du code minier, d'autres acteurs, d'autres opérateurs miniers sont également assujettis à la redevance minière. Si nous devons prendre des cas que moi je considère comme des reculs, je peux prendre le cas de l'exclusion des personnes physiques des opérations minières. Avant la modification du code minier, les personnes physiques, comme vous et moi, le législateur nous avait permis de détenir un titre minier, de faire de l'exploitation semi-industriel ou industriel. Mais avec la révision du code minier,
aujourd'hui ce n'est plus le cas.
Ce n'est plus le cas. La seule opportunité qui est offerte aux personnes physiques, c'est l'exploitation artisanale. Un autre point que moi je qualifie de recul, c'est la possibilité de déroger aux règles établies dans le code minier en matière fiscale. Avant la modification du code minier, le législateur avait apporté une certaine uniformité dans les conditions d'opération des projets miniers. Avec sa modification, si le code minier met fin au régime conventionnel, mais crée en même temps les conditions d'une application différenciée des dispositions fiscales. Avec la loi du 9 mars 2018, cette loi permet des exceptions en matière fiscale. C'est ainsi que l'alinéa 3 de l'article 220 du code minier révisé autorise le Premier ministre à accorder un certain nombre de mesures incitatives à l'endroit des provinces souffrant des déficits d'infrastructures pour booster leur essor économique à partir des ressources minières. Cet état de choses, comme vous pouvez le constater, ouvre une brèche que les sociétés minières peuvent utiliser par un lobbying au niveau provincial ou directement auprès du Premier ministre pour obtenir des exonérations fiscales.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un changement positif, surtout pour les populations qui vivent dans ces provinces où l'on exploite les minerais?
La population congolaise d'une manière générale et les communautés locales d'une manière particulière vont ressentir les retombées de la réforme lorsqu'on aura finalement mis fin à la fraude de l'exploitation des ressources minérales en République démocratique du Congo. Il faut aussi...
C'est parmi les grands défis qu'il faut relever.
Le gouvernement du Premier ministre, l'actuel, devrait faire beaucoup d'efforts pour éradiquer la fraude. C'est lorsqu'on aura maîtrisé ce terrain, on peut avoir bon espoir que le secteur des mines aura finalement des retombées directes sur la vie quotidienne de la population.
Même sur le budget de l'État.
Tout à fait. Et là aussi, il faut dire que il faut régler le déficit institutionnel des administrations chargées de la récolte de la redevance minière. Il faut aussi renforcer les capacités de services comme la DGI, la DGRK, qui sont là pour appliquer la loi et qu'on essaie de boucher, comme j'ai dit, on arrête la fraude. On peut espérer le secteur de mines aura des retombées sur l'économie nationale du pays.
Monsieur Chims Mulungulungu, professeur de droit, expert en droit minier, merci.
Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette édition de journal préparé par Élisée Chikota, Alain Hirong, Pelékipé Lamondo et Billy Ivan Lutumba était devant ce micro pour la présentation. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons sincèrement merci pour l'avoir écouté.